Chaque année, on assassine de plus en plus au Brésil. Le cas de Rio est évidemment plus particulier, c'est un des États les plus violents, il a toujours historiquement été très violent. Ceci dit, l'augmentation de l'individualisme, l'augmentation du chômage, de la précarité, l'augmentation des inégalités sociales ces dernières années, tous ces éléments sont propices à l'augmentation de la violence. Et maintenant, on a des guerres de gangs, et ce sont ces guerres qui font beaucoup de morts. Et le nombre de personnes qui sont tuées par des balles perdues échangées entre la police et les bandes est de plus en plus élevé.
Quelle solution pour contenir ces gangs de trafiquants de drogue ?
C'est extrêmement compliqué, d'abord parce qu'ils sont très bien armés. Ils ont l'avantage du terrain pour eux. Ils se cachent dans des favelas et la population des favelas est souvent terrorisée par les trafiquants qui n'hésitent pas à tuer ou à blesser tous ceux qui ne se tairaient pas. Donc il y a une espèce de loi du silence dans les favelas qui est propice au développement du trafic. La police de la ville de Rio est une police en partie corrompue qui a des intérêts dans les différents trafics en jeu. Alors, est-ce que l'armée peut intervenir ? Alors, l'armée, c'est l'armée fédérale. Le gouvernement Cardoso et le gouvernement Lula ont toujours rechigné à adresser des troupes à l'État de Rio pour assurer un petit peu plus qu'une simple œuvre de police, parce que ça peut être interprété par la population comme un retour à l'autoritarisme, un retour à la dictature, et les conséquences politiques pourraient être fâcheuses.
Corruption, drogue, manque de perspectives d'avenir pour les jeunes. Alors la cote de popularité de Lula effritée au sein de la population, mais contentement également d'alliés historiques du président, le mouvement des paysans sans terre et la centrale unique des travailleurs.
Les sans terre, c'est un vrai problème au Brésil. Et alors le gouvernement Lula a souhaité revoir des procédures, trouver des solutions moins coûteuses pour installer des familles, mais comme dans le même temps le budget de l'État est devenu ultra serré pour cause d'ultra ou d'hyper austérité, eh bien moins de familles que les années précédentes ont obtenu des terres. Donc on est retombé dans la situation de l'ère Cardoso. Maintenant, la différence, c'est que le parti au pouvoir, l'exécutif, est censé être sensible aux thèses des paysans sans terre, mais faute de ressources budgétaires, je crois que dans les prochains mois, rien ne va changer. Et on a entendu la semaine dernière un très important évêque brésilien dire que cela commençait à suffire, qu'il était indispensable de faire de la réforme agraire une priorité sociale et économique.
Le prêt de plus de 30 milliards de dollars accordé par le FMI à Lula n'a pas permis au pays d'assainir véritablement ses bases économiques et financières.
C'est un accord assez particulier. C'est un accord survenu au bout de 6 mois du gouvernement Lula et c'est la première fois que le FMI fait ça. C'est-à-dire que l'argent n'est pas fait pour venir renflouer des réserves monétaires qui auraient été rendues exsangues par une crise économique. Non, elles sont versées à titre préventif, c'est-à-dire pour dissuader les marchés d'attaquer le Brésil. Mais le gouvernement ne peut pas puiser dans ses fonds. Donc c'est une espèce de cagnotte qu'il a, mais ces milliards-là ne peuvent pas servir à développer des infrastructures ou financer des programmes d'aide sociaux.